Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Yann Maïmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Vous êtes passé par Le Havre, Pau Orthez, les Spurs, les Mavericks, les Pacers et les Wizards. Ça fait 9 ans que vous êtes en NBA. Vous avez un contrat sur plusieurs années.
Non, ça fait 11 ans.
11, bah voilà, j'en oublie deux, j'ai mal compté. Vous avez gagné un titre. Si ça s'arrête maintenant, est-ce que vous considérez déjà que vous avez fait une carrière pleine ou alors vous en voulez encore plus et toujours plus ?
Si ça s'arrête maintenant, j'ai quand même fait une carrière pleine. Je pense que pour moi, j'ai toujours ce souvenir, le premier entraînement à San Antonio que j'ai fait avec Chip England, qui est le shooting coach des Spurs, l'objectif, c'était fixer un objectif de faire 10 ans à NBA. Ça, c'était maintenant, il y a 12 ans de ça. L'été, mon premier été à San Antonio. Donc, quand je regarde derrière maintenant, je me dis, bon, quand même... Non seulement j'ai fait plus de 10 ans, mais j'ai gagné un titre. J'ai été en finale de conférence Est plusieurs fois. J'ai fait les playoffs en NBA presque toutes les années de ma carrière, à part pour une fois. Je suis assez fier de ma carrière.
Vous sortez d'une saison à 77 matchs avec les Wizards, sorti au premier tour contre les Raptors.
Ouais.
C'est quoi la marge de progression de cette équipe de Washington à l'heure actuelle ?
Je pense que cette année, ça n'a pas été une bonne saison. Enfin, on n'a pas été à la hauteur. Des attentes, et surtout à la hauteur de nos attentes, de l'objectif qu'on s'était fixé. On a une saison difficile, on termine à la 8e place de la saison régulière à l'Est. C'est pour nous un peu une désillusion. Et puis après, on joue contre une équipe de Toronto qui finit première à l'Est en gagnant 59 matchs. Capital confiance qui joue bien au basket et c'est difficile, c'est compliqué. Voilà, nous on s'est cherché un peu toute l'année, hein, on s'est cherché. Pourtant, jouer sur la carte de la continuité, donc c'est un peu contradictoire, mais écoute, on s'est cherché toute l'année et puis voilà, on est arrivé en playoff, on n'était pas bien. Tu vois, en général, moi je fais les playoffs, enfin j'ai fait les playoffs de nombreuses années et je le sens. Tu sais, quand j'ai l'impression qu'il y a une alchimie, tu vois, les vibes sont bonnes, sont positives et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sens que l'équipe est prête. Tu sens que le capital confiance est au max. Tu sens que tout le monde sait son rôle, que les gars sont contents et que grosso modo, enfin les playoffs sont là. Là, cette année, j'ai pas ressenti ça.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que de l'extérieur, vous êtes une franchise frustrante. De l'extérieur, on le voit aussi. Il y a John Wall, il y a Bradley Beal, il y a des gens qui ont de l'expérience. Vous aussi, vous avez de l'expérience maintenant. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait justement que, au moment des playoffs, vous le sentez pas et que vous dites encore, on a l'impression de se chercher alors qu'on se connaît déjà ?
Non, parce que les playoffs, en fait, c'est le résultat de ta saison régulière. Tu vois, c'est comme on dit aux États-Unis, c'est the journey. The journey starts. Elle commence. En pré-saison. Et toute l'année, en fait, tu travailles, tu deals avec toute l'adversité, les ups and downs, comme on dit, les blessures, machin, pour arriver en play-off, en fait, avec une expérience et un vécu de groupe qui te permet d'espérer gagner un titre. C'est ça. Tu vois. Donc, pendant ta journée, si les choses se passent pas bien et si, justement, t'arrives pas à construire ton mental et ton équipe de la bonne des façons, t'arrives en playoff pas de la bonne façon. Et it doesn't matter. Y a pas, ça change rien si t'as le meilleur effectif du monde entier ou pas. Tu vois.
Et sans rentrer dans le détail, il y a des tensions. Il y a quoi ? Parce qu'on sent que Marcin Gortat, par exemple, il ronchonne un peu publiquement.
Ouais.
Y a des rumeurs sur John Wood, Bradley Beal. Y a un truc dans le groupe aussi qui prend pas ou...
Je pense que on n'a pas le meilleur vestiaire, tu vois, on n'a pas le meilleur, je pense, esprit de groupe de la ligue, tu vois. Il y a des fois des phrases un peu maladroites qui sont dites, Après, c'est comme dans une famille, hein, tu sais, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où on se tire un peu les cheveux, on s'embrouille un peu. Tu vois, il n'y a rien de méchant. Mais c'est vrai que des fois, des choses sont interprétées aussi d'une certaine façon qui ont un effet sur le groupe, tu vois. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu des tensions cette année, oui, mais qui en a pas? Et je pense que c'est dommage parce que sur le papier, on a quand même une équipe qui a tout pour pouvoir espérer plus que ce qu'on a montré sur cette saison.
Après, vous avez joué dans des équipes qui sont allées très loin,
Ouais.
Dallas, San Antonio, Indiana, etc. Après, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Tout le monde s'entendait peut-être pas forcément, même dans ces équipes-là. C'est aussi du boulot, entre guillemets. On peut pas s'entendre avec les 15 mecs qui sont dans le vestiaire.
Exactement. C'est aussi ça une réalité. C'est la NBA. Écoute, hein, on est des grands garçons. Au bout d'un moment, on n'est pas obligé de tous s'aimer. Hein, on n'est pas obligé. Mais je pense qu'au-delà d'un amour ou au-delà d'un, on doit se respecter. Tu vois. Donc ça, je pense que à partir du moment où certains joueurs se respectent pas forcément, ça peut poser des problèmes. Après, je dis pas que ça c'est ce qui se passe dans notre vestiaire, mais c'est une réalité. Tu vois. S'il n'y a pas le respect mutuel, si les gens ne comprennent pas en fait, ne mettent pas leur ego de côté pour créer une cohésion de groupe, tu vois, pour en fait tirer le groupe vers le haut, bah ça se passera pas. Moi, je l'ai vu dans une équipe. Quand tu regardes notre équipe, par exemple à Dallas, on a gagné le titre. On avait sur le papier, on n'avait pas forcément la plus belle équipe, mais on avait beaucoup de caractères qui tiraient le groupe vers le haut. Donc ça fait que à un moment donné, l'alchimie a pris et on était presque inarrêtable. Quand on se retrouve à sweeper les Lakers en demi-finale de Conférence Ouest, c'est un peu exceptionnel. Tu vois, tu fais pas ça avec un groupe. Faut que ton groupe soit assez spécial pour faire ça 4 fois d'affilée. Tu vois, sortir Phil Jackson, Kobe, tout ça, c'est quelque chose.
Pour finir sur cette saison, 77 matchs, c'est quand même une satisfaction peut-être personnelle aussi, parce que vous avez eu des soucis de blessure avant, vous avez perdu 10 kilos avant le début de la saison. Ça aussi, ça doit quand même faire du bien.
Bien sûr, moi, pour moi, c'est, j'ai envie de dire, peut-être le seul point positif de la saison 2017, de l'exercice 2017-2018, d'avoir fait 77 matchs. Je me suis fait une petite blessure pendant l'année, mais ça m'a écarté 2 matchs, quoi. Donc le reste, franchement, c'est. Pour moi, ça a été. Je voulais faire 80 des matchs. C'était mon objectif. En début d'année, je me suis dit dans ma tête, non, il faut que je fasse toute la saison. Bon, là, j'en ai fait 77. Ça me suffit. Et je suis content. Je suis content. Et puis, même à la fin de la saison, et j'ai pas énormément joué non plus pendant la saison avec un temps de jeu assez réduit. Mais à la fin de la saison, j'ai même pas pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps de repos parce que je me sentais bien. Donc, j'ai senti que j'en avais encore sous la pédale, donc c'est de bon augure sur mon corps, la maturité de mon corps, la faculté aussi à rebondir de blessures comme j'ai eu, comme j'ai 2 opérations au genou, elle est bonne et je me sens bien aujourd'hui.
Ça se voit, je veux dire, quand on vous voit là, on voit que vous êtes affiné par rapport à il y a quelques années. C'est assez visible. Sur le plan personnel, donc on l'a dit, vous avez perdu 10 kilos. Vous avez dit au début de saison au Wizard Tip of Podcast que le plus dur, c'était d'arrêter le sucre et le chocolat. Est-ce
C'est
que
vrai.
c'était provisoire ou est-ce que du coup, maintenant, ça a dû devenir un rythme de vie complètement différent
C'est un
sur.
rythme de vie. C'est un rythme de vie. Après, je dis pas que je mange plus de chocolat. Je mange du chocolat, mais du chocolat noir maintenant.
D'accord.
Et très, très noir. Très noir.
Ouais.
Mais oui, mais c'est vrai que le sucre, tout ça, les habitudes alimentaires, pour moi, ça a été très important. Ça a pris du mal à se mettre en. Ça a pris du temps à se mettre en place. Mais c'est vrai qu'avec l'aide de mon chef, d'ailleurs, shout out to chef Brazil Murphy, c'est mon chef à Washington. Avec l'aide, avec son aide et aussi l'aide de l'équipe, parce que on a aussi une équipe avec un diététicien, comment,
Un
diététicien, ouais.
diététicien,
Un
ouais.
diététicien, ouais, pardon. Et puis aussi quelqu'un qui est vachement poussé sur tout ce qui est santé. Health, tout ça là. Donc on a un bon groupe et on a pu en fait créer un groupe, un chat et en fait faire le meilleur plan pour moi. Et
D'accord.
après je l'ai suivi et voilà, après c'est devenu, tu sais, des habitudes et maintenant je me sens super bien.
Alors on va revenir un petit peu au début de votre parcours NBA. Drafté en 2005 par San Antonio, vous y allez en 2007.
Ouais.
Alors d'abord, comment ça se passe la décision de prendre 2 ans d'attente? Vous restez à Pau, vous apprenez beaucoup à Pau, ça s'est fait naturellement?
Ça s'est fait naturellement, je me suis fait drafter du Havre. Et à l'époque, j'étais très jeune, hein, 18 ans. Et c'était très clair, dès la draft, enfin l'après-draft, quand je suis allé à San Antonio, c'était très, très clair aux yeux de RC Buford et Pop que j'allais rester en Europe encore pour me développer. Ils m'ont dit, hein, t'es encore très très jeune, nous de toute façon, on joue les titres, on a beaucoup d'anciens, de vétérans dans le groupe, donc c'est plus intéressant pour toi de continuer à te développer. Et donc dans ma tête, à ce moment-là, tu vois, je me dis, bon, ok, je vais rester, mais pas trop longtemps. Tu vois, je voulais pas, tu vois, rester trop, trop, trop longtemps en Europe. Donc après, j'ai fait une année au Havre où j'ai vraiment explosé et j'ai eu cette opportunité de jouer l'Euroleague. Et c'est là où j'ai pris ma décision, en fait. J'avais déjà pris ma décision une année avant de partir. J'ai dit, là, je fais une année d'Euroleague. Je l'ai prise aussi avec mon agent Buna India et Jeremy Medjana. On avait un petit peu un game plan, tu vois. Mais j'avais pris ma décision dans ma tête que je vais faire une année en Euroleague, une année dans un gros club, à Pau à l'époque, qui était probablement le plus gros club en France, dans une grosse structure avec un coach, Gordon Herbert à l'époque, tu vois, qui était... Un des meilleurs coachs, anglo, enfin canadien, mais tu vois, un peu qui a la technique un peu américaine. Je me suis dit, une année comme ça, je pense que ça va me préparer. Et après, le grand saut aux États-Unis. Et après, on verra. Mmh. J'ai pris la décision, justement, donc à cette année. Et à la fin de la saison, j'étais déterminé. Tu vois, même si les Spurs, ils auraient peut-être voulu que je reste encore un peu plus en Europe, mais je ne leur ai même pas donné le choix. Quoi. Je leur ai dit, écoutez, là, je suis motivé, j'y vais, je reste avec vous tout l'été et je veux rester à San Antonio. Quoi.
Et alors justement, vous arrivez à San Antonio et là, vous arrivez, mais vous n'arrivez pas vraiment. On vous fait faire des allers-retours avec la D-League, il y a des choses qui se passent. À ce niveau-là, vous, comment vous le vivez? C'est cette sorte d'entre-deux en fait, dans lequel vous êtes plongé au début de votre carrière NBA.
En fait, moi, j'étais tellement dans l'optique de... Je vais aller en NBA coûte que coûte. Je vais réussir par tous les moyens. En fait, ça ne m'a pas trop dérangé. Je veux dire, tout l'été, j'ai bossé avec les Spurs. J'ai fait, après, le training camp est arrivé. J'étais lancé comme un... Tu sais, j'étais super focus, quoi. Et après, bon, Pop et tout le staff a été très clair avec moi. Bon, bah, cette année, voilà l'effectif. Voilà l'effectif. Tu ne vas pas avoir beaucoup de temps de jeu. L'objectif, c'est peut-être pour toi d'aller à Austin. On a une franchise en D-League. On va te donner du temps de jeu. On va essayer de continuer ton développement. Et donc, c'était très clair très tôt. Et en fait, pour moi, ce qui m'a surmotivé, c'est qu'en fait, avant que la D-League commence, la saison avait commencé. J'ai pu faire en fait des matchs de pré-saison et le début du championnat. Et j'ai pu jouer. Et donc, j'ai goûté. Et tu vois, franchement, je me suis bien débrouillé, quoi. Je me suis franchement bien débrouillé. Et je me suis dit, mais attends, tu vois, même si je vais à l'Andilic, je suis pas loin, je suis pas si loin que ça de la NBA, quoi. Et donc, je suis arrivé à Austin avec un gros capital confiance, tu vois, et avec un coach à l'époque. J'ai oublié son nom. Mon coach... Quinn Snyder.
Ah oui.
Oui.
Oui, oui.
Donc, Quinn Snyder... Ouais. Qui est mon coach à Austin, et l'assistant coach Roy Rogers, qui est l'assistant coach d'Anthony à Houston. Donc, j'ai les deux là, et les gars, ils sont à fond derrière moi, tu vois. Et l'équipe D-League est construite autour de moi, et tout est fait en sorte que tout se passe bien, et boum, ma saison est lancée, quoi. Et c'est clair et net, bon, dans le game plan, que je passe toute la saison en D-League. Donc, tu vois... Tu passes la barrière de « Oh, c'est bon, je vais... » Tu vois, et tu joues au basket, tu commences à jouer au basket, et là, je joue bien, tu vois. Je domine, les Spurs sont contents, ils me rendent des visites de temps en temps. Moi, j'ai une super connexion avec coach...
Snyder.
Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'oublier, et pourtant, c'est mon gars. Donc, tu vois, je développe vraiment une forte relation et avec coach Roger, tout. Et je fais une grosse saison, quoi. Je fais une grosse saison en D-League. Et je rentre à San Antonio, à un moment, il me rappelle, rapide, bon, je retourne un peu avec l'équipe, machin, je termine ma saison, et j'enchaîne avec les Spurs, on part en playoff, je pense qu'on perd contre les Lakers, je crois, au deuxième tour des playoffs cette année. Et la première saison se finit, et tu vois, tout le monde, c'est là un peu la révélation. Mmh. Ah, mais le petit Miami, il peut game, quoi. Mmh. Tu vois, c'est pas un joueur de D-League. Là, tu vois, j'ai fini première équipe, All-Star Game, tout ça. Et c'est plus un joueur de D-League, c'est un pro. Mmh. Donc, tout l'été, dans mon optique, tu vois, et c'était clair et net aussi avec le staff, l'année prochaine, j'allais avoir mon opportunité, ma chance. Donc, ça a changé un peu. Donc, ma première année, elle était vachement mitigée en début de saison parce que je savais que j'allais aller en D-League et que j'avais pas forcément envie d'y aller. Mmh. Mais au final, tu vois, on a eu cette ouverture d'esprit et en fait, c'était pour moi, je pense, le meilleur move quoi, que j'aurais pu faire.
Oui, ça s'est fait naturellement, en fait.
Ça s'est fait naturellement. Et ça m'a aussi donné beaucoup de temps de jeu à un très jeune âge et ça m'a donné des responsabilités que j'aurais pas pu avoir. Et surtout, un temps d'adaptation aussi au style de jeu américain, tu sais, des règles différentes, un arbitrage qui est différent. Donc, ça m'a donné un peu une base que j'aurais pas pu avoir si j'étais resté aux Spurs, quoi.
Alors, les Spurs, justement, vous les quittez en 2010, vous signez à Dallas, San Antonio, vous voulez pas vous garder, il y a eu des contacts, comment ça
s'est
passé?
Si. Quand je quitte les Spurs à l'époque, j'ai eu Pop au téléphone, et je me rappelle, j'étais dans un magasin, il m'appelle, et il me dit, bon, écoute, voilà, c'est la free agency, nous, on veut te garder, on aimerait bien te proposer un contrat, simplement, là, c'est très tôt dans la free agency, on a d'autres priorités, et je pense que ça va venir un peu plus tard. Mais nous, on veut te garder. Donc après, bon, j'ai eu d'autres offres, et j'avais pas forcément envie d'attendre. Tu vois, j'avais envie de... Tu vois, il y a eu l'offre de Dallas sur 2 ans qui s'est proposée, et je me suis dit... Tu vois, j'ai pas forcément envie d'attendre ce qui se passe, de voir ce qui se passe à droite et à gauche. Let's go. Tu vois, Dallas, c'est une grosse franchise. Tu vois, l'année, on s'était fait sortir des playoffs par Dallas, tu vois. Et avec Bouna, tu vois, on s'est dit, mais c'est une belle opportunité qui se présente. T'es sûr que tu veux attendre? Et voilà, et non, après j'ai pris cette décision et je suis parti.
Et là, vous vous retrouvez dans un effectif assez dingue. Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Jet Terry, Sean Marion, DeSean Stevenson, Tyson Chandler, Brandon Haywood, j'en oublie
JJ
encore,
Barrea,
sur JJ Barrea que j'oublie.
Rodrigue Bobois
qui était là, c'est vrai que vous êtes deux Français. Et donc la première année, c'est l'année du titre directement. Et alors, commençons un petit peu par le panorama de cet effectif. Comment ça se passe dans le vestiaire? Qui est calme, qui ne l'est pas? Parce qu'il y a des extrêmes. Il y a Jason Kidd qui a quand même une image de sage ultime, il est en fin de carrière, voilà. Et il y a DeSean Stevenson de l'autre côté. Voilà. Donc ça doit être animé.
Non, mais ça a été vachement animé, mais de la bonne façon, en fait, de la bonne manière. C'était, pour moi, ça reste le vestiaire, pour moi, ultime. Où tu as on va dire, c'est même plus des superstars, c'est des legends. Comme Jason Kidd et Dirk Nowitzki, qui sont super pros, avec une éthique de travail franchement impeccable, avec un aura et un leadership, tu vois, qui est franchement impressionnant. Mm. Et en même temps, tu as d'autres leaders, tu vois, comme Jason Terry, tu vois, qui sont des leaders vocaux, qui sont vachement... qui sont agressifs, mais en même temps qui restent des joueurs hors du terrain. Moi d'ailleurs, quand j'étais à San Antonio, c'est-à-dire que Jed, je le détestais, quoi.
Ouais.
Jason Terry, et après quand je suis passé de l'autre côté, Jed, c'est presque à la limite un des gars avec qui j'ai le plus de contact, même au jour d'aujourd'hui, tu vois. À chaque fois qu'on se voit avec Jed, tu vois, le courant passe bien, quoi. Donc tu vois, t'as des gars comme Jed, comme DeSean Stevenson, comme Sean Marion, qui sont un peu plus, tu vois, qui communiquent un peu plus leur leadership, qui sont des caractères un peu à gérer, quoi. Qui aiment bien sortir, tu vois, qui sont un peu plus exubérants, quoi. Et franchement, le vestiaire, il était top. On avait Monsieur Porto Rico, JJ Barrea, tu vois, qui ramenait aussi cette ambiance dans le groupe. Il y avait moi, il y avait Rodrigue. On a fini avec Peja Stojakovic aussi,
oui, c'est vrai.
Qui lui aussi, pour moi, c'est un peu une légende aussi à l'européenne, quoi. Non, on a eu un groupe qui a été franchement bâti. Là, je dois donner du crédit à Mark Cuban et puis notre GM Nelson, qui ont fait du taf parce qu'ils ont pu, en fait, c'est ça le plus dur en NBA. Ramener des gros caractères, mais qui se mettent au service de l'équipe. Ouais. Tu vois. Et il l'a fait, et on l'a fait cette année avec brio. Et voilà, on s'en sort avec un titre. Et surtout avec tout le groupe était la victoire d'un groupe, quoi. Ouais. À la fin de l'année, tout le monde parlait pas d'un joueur, même si Dirk il a été exceptionnel, mais tout le monde parlait du groupe. Ouais. Tu vois, et comment on bougeait la balle, et comment on a défendu, et comment on a fait ci. Et tout le monde a eu son petit spotlight.
Ah, c'était une vraie équipe de basket, quoi.
Voilà, ouais. Tu vois, il y avait... Et pourtant, il y a des légendes dans cette équipe. Tu vois, on avait aussi Caron Butler qui s'est blessé, malheureusement. Ouais. Mais non, tu vois, ça reste pour moi, si tu me poses la question, peut-être c'était une de tes questions, quel est ton meilleur souvenir en NBA? C'est cette année, ouais. C'est ce titre.
Et alors, pour l'anecdote, moi j'avais la chance de couvrir les finales NBA cette année-là.
Ah ouais, ok.
Et donc j'ai fait les trois matchs à Dallas. Et dans votre vestiaire, il y avait l'air d'y avoir une bonne ambiance. Parce que je me rappelle que sur le vestiaire de JJ Barea, il y avait une petite voiture en plastique où il y avait marqué Little Car for Little People. Alors je sais pas qui lui a offert ça.
Ah, je sais même pas, je pourrais même pas te dire.
Mais ça, en effet, ça avait l'air assez, assez détendu. Et pendant ces finales 2011, alors c'est un peu l'impression qu'on avait sur place et quand on couvrait un peu le truc. Je sais pas si vous le ressentiez comme ça, mais est-ce que vous aviez l'impression d'être cette équipe sympa qui était là, pour laquelle tout le monde avait de l'affection et qui se battait contre le grand méchant Heat des trois amigos qui étaient... En plus, ils avaient les maillots noirs et rouges, il y avait un côté très flamme de l'enfer, etc. Mais on avait vraiment l'impression que vous étiez là, que vous étiez sympa, etc. Sean Marion, les conférences de presse étaient toujours détendues, de Sean Stevenson, je me souviens, pendant les points presse, qui prenait une caméra d'ESPN, qui se la mettait sur l'épaule, qui déconnait avec Brandon Haywood, etc. Et en face, il y avait les mecs de Miami qui étaient assemblés de cette année... qui était très quand même sous le feu des projecteurs, LeBron était quand même encore assez fermé médiatiquement cette année-là. Vous le ressentiez un peu ce côté, tout le monde est derrière nous, quoi.
Bah en fait c'était pas tout le monde est derrière nous, on l'a ressenti quand même un peu ce tout le monde, mais c'était plus de good guys contre entre guillemets de bad guys, tu vois. Et tu vois à la fin quand on gagne. C'est finally the good guy, the good guy wins sometimes, tu vois. De temps en temps, ça arrive que les gentils gagnent, tu vois. Donc ouais, on a ressenti. Moi, je l'ai ressenti personnellement. Je l'ai ressenti. Et c'est vrai que c'était la première année du Big Three. Et c'est vrai que les gens, ils étaient vachement. Même s'ils n'étaient pas forcément fans des Mavs, s'ils avaient à choisir entre Miami et Dallas. Automatiquement, ils venaient vers nous. Tu vois. Donc cette année, j'ai eu franchement au niveau du soutien, ça a été assez impressionnant. Le soutien qu'on a eu, c'était.
Et je vous dis, même moi, après c'est biaisé parce que j'étais à côté des journalistes allemands en tribune de presse, mais on sentait qu'il y avait un certain engouement quand même. Pendant le match 5 sur le shoot de Jet Terry, à la fin, c'était la folie. La salle, elle est en fusion, quoi.
Non, ça, c'est moi, je l'ai vécu. Franchement, c'était franchement assez spécial et j'ai pu en fait vivre ce moment avec. Tout mon entourage, c'est-à-dire mon entourage, c'est ma famille, ma mère, mon père, frères et sœurs, cousins, cousines, et tous mes meilleurs amis. Tout le monde est venu de France. Donc, de vivre un moment fort comme ça, avec toutes les personnes en fait, qui m'ont vu grandir, et d'être dans un vestiaire entouré de personnes, c'est-à-dire que si tu demandes à tous mes amis qui sont là, ou ma famille... qu'est-ce que vous pensez du groupe? C'est le genre de truc où Dirk il allait voir ma mère, ma sœur ou mes amis, il prenait des photos. Tu vois, c'était naturel quoi. Et c'était, tu vois, je pense que c'est en NBA, c'est ça qui est difficile à trouver en fait. C'est d'avoir un groupe et des égos, tu vois, qui s'acceptent et qui puissent vivre comme ça ensemble. Et moi, enfin, tu peux demander mon manager Issa, qui est aussi mon meilleur ami.
Qui est à côté de nous, on peut le préciser. Il nous fait un petit coucou.
Non, mais c'est-à-dire, il a vécu aussi, lui, par exemple, je parle lui en exemple, mais il y en a d'autres. Il était avec nous au moment de la célébration, mais il a vécu ça comme un joueur. Et il a été, je veux dire, il a été ramené dans le tout, quoi, de façon assez naturelle. Tu vois, donc ça a été franchement... C'est extraordinaire.
Marc Cuban, il aide un peu à ce côté famille ou pas? Parce qu'il est très atypique hein, chez les proprios NBA. Je me souviens, quand on venait justement, quand le stade ouvrait ses portes à la presse avant les matchs, on arrivait et on le voyait jouer. Il shootait sur le terrain tout seul, il y avait quelqu'un qui lui repassait le ballon. Enfin, il est quand même à part, quoi.
Ouais, je pense que Marc, c'est un proprio qui est très proche. Hein, très proche de ses joueurs, très proche de son équipe. Et je pense que ça aide en termes de... Quand tu es tout le temps proche comme ça d'un groupe, d'une équipe, en fait, tu connais, tu vois un peu comment le groupe évolue, ça te donne des informations un peu qui sont difficiles à connaître pour un proprio, parce qu'en général, les proprios, ils ne voient pas trop comment ça se passe à l'intérieur du groupe. Donc lui, il voyage avec nous, il est souvent là. Donc il est un peu atypique de ce point de vue, tu vois, et je pense que c'est aussi ça qui fait une de ses forces, tu vois. On a beau dire, ouais, Marc, il est un peu arrogant, il est toujours, tu vois, il est un peu égocentrique parce que bon, c'est souvent Marc, il a son mot à dire, ouais. Mais en même temps de ça, il est investi dans son équipe à 200%, tu vois, et il est proche de nous et il a envie de savoir ce qui se passe dans le vestiaire et il a envie de savoir ce qui se passe avec les joueurs et il a envie d'être ouvert, d'avoir un dialogue avec, tu vois, il aime bien être proche des jeux de ses joueurs et en tant que proprio, tu sais, c'est rare.
On va faire un petit break sur votre parcours, Yann, et on va passer à la séquence 5 majeurs. C'est très très simple, comme son nom l'indique. Alors, attention, je vous demande pas votre 5 majeur all-time, etc. Je vais vous demander votre 5 majeur de vos coéquipiers.
Bah même ça, c'est
on dur. Ah bah oui, il y a des légendes. C'est vrai que vous avez joué avec du Tim Duncan, avec du Dirk Nowitzki, du Jason Kidd. On est dimanche matin, vous devez prendre 5 gars avec vous pour aller jouer.
Waouh.
Et on n'a même pas encore parlé de Paul George et des Pacers, etc. Donc ouais, il y a du très très lourd.
Attends. Là, c'est 5 gars, là.
Ouais. Il faut que vous me fassiez un 5
dimanche. Et moi, je suis dans le 5
là. Vous les coachez, vous faites 6e, on va dire.
Non, comme je
ça.
Coach, moi.
Voilà, alors, bon, là... bah, comme ça, vous en avez 5.
Alors, ma paire à l'intérieur... même à l'intérieur, il y a du monde, hein. Mais quand même, Tim Duncan, je pense Tim Duncan et Dirk Nowitzki, même s'ils sont un peu sur le même poste, je suis obligé de mettre les deux à l'intérieur. Ensuite, à la main, là c'est chaud là.
Oui.
Soit c'est Jason Kidd, soit c'est Tony Parker. Wow.
C'est vrai, leur destin reste lié. Il y avait les rumeurs d'échange à San Antonio il y a très longtemps.
Attends, on va revenir au meneur après. Ensuite, poste 2, Manu Ginobili.
Ouais.
Même s'il y a Paul George. Hein.
Oui. Vous pouvez décaler en 3 au pire. Mais...
Et puis aussi Bradley Beal. Hein.
Ouais, il y a Bradley Beal aussi, ouais. Si vous voulez avoir un peu de shoot.
Mais Baby Ray, on va... Ok. Bon, alors, je vais dire... Je vais dire Paul George, Manu Ginobili.
Ah, c'est dur. Le meneur, je sens que vous avez du mal. Il y a John Wall aussi, d'ailleurs, dans l'équation. Si...
Ouais, mais pour moi, en termes de légende...
Ouais, il n'est pas encore au même niveau.
Je prends Tony Parker.
Allez, Tony, qui était quand même, enfin Jason Kidd était en fin de carrière au moment où vous jouez avec lui, si on peut modérer avec ça. Bon, ça fait un beau 5, donc on a dit Kidd, Gino, Paul George, non.
Tony Parker, pardon.
Oui,
Tony Parker, Manu Ginobili, Paul George, Dirk Nowitzki, Tim Duncan.
Le Big 3 des Spurs, aidé par Dirk Nowitzki et Paul George.
Ouais.
Ça va, c'est pas mal. Ça fait un gros 5. Ouais. Et alors, un autre 5 majeur, on va plutôt vous demander un top 3, et plus, vraiment des joueurs plus proches de vous, mais les adversaires, les 3 mecs les plus difficiles à jouer que vous ayez rencontrés.
Moi, le premier, c'est pas le plus difficile, mais c'est le gars, en fait, qui m'a le plus traumatisé, qui m'a impacté le plus. Je me rappelle, j'ai eu l'opportunité de jouer contre Alonzo Mourning quand il était à Miami. Et c'était un de mes premiers matchs en NBA. Et en fait, je me suis rendu compte en fait, de la dimension physique. Je lui ai mis un coup, en fait, sans faire exprès, un coup de coude sur l'arcade. Et en fait, ça l'a fâché. Et après, tu vois, il était super physique. Mais moi, à l'époque, j'étais une brindille, quoi. Et je pouvais rien faire, j'étais tellement impuissant devant sa force, tu vois, que ça a été un déclic dans ma tête et dans ma carrière. Je me suis dit, non, là, il faut que je pousse. Il faut que j'aille à la muscu, il faut que je devienne plus fort. Je dis, si je suis amené à jouer contre ce type de force, je suis obligé d'aller à la muscu. Et ça, tu vois, ça a été le déclic pour moi.
Bah, puis en termes d'armoire, Alonzo Mourning, c'est...
Oui, mais tu sais, moi, quand je suis arrivé à San Antonio, j'avais des big men, mais c'était pas des... Tu vois, j'avais Francisco Wilson, tu vois, Kurt Thomas, j'avais... Tim Duncan, qui sont un peu plus fins, un peu plus dans mon style, quoi. Ouais. Et là, le fait de rencontrer Zo Mourning, et en plus, j'ai la maladresse de lui foutre un coup de coude dans l'œil, tu vois, dans ma tête, c'était le déclic. Donc, il y a lui. Ensuite, on parle de big men ou on parle de joueurs?
N'importe quel joueur que vous ayez affronté, qui vous a marqué.
Après, il y a Kobe. Kobe, pour moi, je l'ai toujours vu à la télé, mais de jouer contre lui et de voir ce qu'il fait à chaque fois sur les meilleurs défenseurs, sur tout un... C'est-à-dire que quand on joue contre Kobe, presque tout le système défensif, tout le game plan, il est sur Kobe, quoi. Mais ça ne change strictement rien au résultat, tu vois. Donc, Kobe, pour moi. Et puis, qui d'autre qui m'a vraiment impacté comme ça? Après, bon, je suis obligé. LeBron. Parce qu'en fait, LeBron, le pire, en fait, c'est devenu un peu... Pour moi, c'est devenu un objectif, c'est comment faire pour battre LeBron. Tu vois, je suis arrivé, bon, j'ai gagné en 2011, certes, mais depuis ça, j'ai perdu tous les ans presque contre LeBron. Tu vois, que ce soit à Indiana, tu vois, Indiana, on est allé deux fois de suite en finale de conférence Est, et on n'a jamais pu battre le Heat. En grosse partie, bon, LeBron et Dwayne Wade, mais... Tu vois, LeBron, ça reste ma question qui n'a pas encore de réponse. Tu vois, depuis 2011, quoi. Comment passer son rempart?
Mais je vous ai entendu, je crois que c'était sur RMC il y a quelques jours, vous disiez même, j'aimerais bien qu'il reste à l'Est. Ouais. Parce que je veux le jouer et je veux le battre, quoi.
Mais grave. Moi, c'est ça mon souhait. C'est qu'il reste à l'Est et qu'avec les Wizards, on puisse les taper. Tu vois, square and fair, tu vois.
Mais parce que vous l'avez joué, donc vous l'avez dit, avec Indiana deux fois en finale de conférence, avec une très belle équipe, des matchs très intenses. Et je retiens quelque chose que Kevin Sarafin nous avait dit dans une émission. Lui, il disait, c'est pas juste quand on joue LeBron James. Et on a parlé de l'anecdote de Lance Stephenson qui lui souffle dans l'oreille. Vous êtes là à ce moment-là. Kevin Sarafin nous disait, moi, j'ai bien aimé parce qu'au moins, il a tenté un truc. Personne n'arrive à rien avec LeBron, c'est toujours compliqué. Au moins, il a tenté un truc, il a essayé de le déstabiliser. Moi, ça m'a fait marrer.
Ouais, mais non, mais ça, pour moi, ça, c'est pas parce que tu souffles dans son oreille que la finalité, c'est que ils ont quand même gagné, quoi.
Oui, oui, non, mais après, voilà, il essayait de le déstabiliser. Il y avait une vraie rivalité qui se mettait en place. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous, par exemple, ce moment-là.
Moi, je pense que il y a certains joueurs, tu vois. Tous ces petits trucs, ça marche pas forcément. Ça, je pense même, rajoute un peu d'huile sur le feu. Tu vois. Donc pour moi, c'est pas forcément, tu vois, je sais qu'après, Lance et LeBron, ils auront toujours une certaine rivalité depuis ça, tu vois, mais c'est pas forcément ça, tu vois, qui peut faire la différence. Donc après. moi, LeBron, au-dessus de ça, c'est pas que c'est pas juste. C'est juste que il faut trouver... Il est bien aidé, hein, il est bien entouré, mais il faut, en fait, se rendre compte aussi du niveau du gars, du niveau du joueur et de sa constance, tu vois, dans l'air du temps. Là, la majorité des personnes, elles se posent la question, surtout à l'Ouest, comment battre les Warriors. Mais moi, ma question, avant de passer aux Warriors, c'est comment de battre LeBron. C'est lui le gars qui amène ses équipes année après année. en finale.
Et sur la finale où vous menez 3-2 avec Indiana, vous vous dites c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une rivalité dans les années, ou parce que ça retombe un petit peu après malheureusement.
Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'au début, on a senti cette rivalité quoi. C'était tous les matchs, même pendant la saison régulière, les matchs qu'on joue contre le Heat, c'était des matchs, forcément des matchs télévisés sur la télévision nationale, mais c'était aussi c'était des salles pleines, c'était des événements attendus quoi. Donc je pense qu'il y a une rivalité qui a commencé à se mettre en place, qui n'a jamais vraiment pu être exploitée.
Et Indiana justement, parce que on n'a pas tout à fait fini le chapitre Dallas, mais donc l'année d'après le titre, Tyson Chandler part, ouais. Il donne un peu plus de temps de jeu à Brendan Haywood. Vous n'avez pas forcément vraiment un temps de jeu qui explose à ce moment-là. Et ensuite, vous arrivez en Indiana, vous êtes échangé contre Darren Collison et Dante Jones. À ce moment-là, Roy Hibbert est établi, pivot numéro 1, Indiana, etc. Donc vous avez un rôle de numéro 2 assez clairement défini. Et pourtant, on a quand même l'impression que c'est à ce moment-là que ça y est, vous êtes établi en NBA, même si c'est un rôle de remplaçant, mais on sent que vous êtes là, vous avez votre place, vous avez votre rôle, vous avez votre temps de jeu. Est-ce que vous avez eu cette impression-là qu'à ce moment-là, ça y est, vous êtes un joueur NBA dans la durée et c'est établi?
Non, moi je pense que ça s'est fait à Dallas, ma deuxième saison. Moi personnellement, j'ai eu, Brandon, il était le starter, mais tu vois, il a eu quelques blessures et tout. Et moi, j'ai eu en fait des opportunités de starter, tu vois. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à starter quelques matchs et que j'ai commencé à vraiment produire, j'ai eu un stretch pendant cette année où je tournais à plus de 10 points, à plus de 7 rebonds, tu vois, en startant dans une équipe comme les Mavs, tu vois, où on visait clairement les playoffs. Et c'est là que je me suis dit, voilà, tu vois, là, je pense que on connaît mon nom maintenant. Tu vois, je passe plus à côté, indifférent. Je pense que les yeux, aux yeux de la NBA, ils ont dit, bon, bah, ce gars, il peut jouer. Tu vois. Et c'est vrai que le contrat de 4 ans à Indiana, ça a été un peu la consécration de cette année. Et après, ça a été, on va dire, c'est là où j'ai pu montrer un peu plus de choses de façon assez stable.
Et Washington, donc derrière, c'est la dernière destination. Vous êtes à Washington maintenant. Ouais. Comment ça s'est fait, ce choix? Ça fait donc 2 saisons que vous êtes là-bas. Vous êtes free agent. C'est la première free agency où vraiment vous pouvez avoir des prétentions et où il y a un vrai enjeu et où vous allez avoir plusieurs offres. On le salue. Il y a un documentaire d'ailleurs de Youssef Ouldiassia qui retraçait un petit peu ce qui s'est passé. On invite les gens à le regarder sur YouTube pour plus de détails. Mais est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous résumer les émotions que ça a été cet été un peu de free agency?
Non, ben je sors de ma meilleure saison en carrière et grosso modo, moi dans ma tête, je me dis bon, bah, je suis ouvert, mais je pense rester à Indiana, quoi. Tu vois, j'ai parlé à Larry Bird à la fin de la saison et au président Danny Walsh et à l'époque mon coach Frank Vogel clairement. Tu vois, je me dis, ah, là, je sors de ma meilleure saison, starter, on était en playoff, on avait un groupe, tu vois, qui avait une bonne base. Et dans ma tête, je me dis, ah, là, je pense que j'ai mérité enfin un bon deal, je vais garder les options ouvertes, mais je pensais retourner à Indiana. Et donc vient la free agency. J'ai plusieurs équipes qui se positionnent et des vrais choix à faire. Vrai choix à faire. Après, moi, j'ai placé mon choix sur. En fait, si je retournais pas à Indiana, je voulais aller dans une équipe de playoff. Tu vois, c'était un peu mon objectif. Je me dis, ouais, je veux pas repartir dans une équipe qui est en reconstruction. Je veux avoir un challenge collectif, tu vois, de groupe. Et voilà, les Wizards se présentent.
Donc, Wizards avec une belle équipe. Et puis même, pour moi, pour avoir joué plusieurs fois contre les Wizards, c'est toujours dur. De jouer à Washington, c'est toujours dur. C'est toujours dur. Donc, j'ai cette opportunité qui se présente à moi. Et je la saisis. Et avec Indiana, c'était pas... La proposition n'était pas à la hauteur de ce que moi j'attendais, ce que je voulais. C'est vrai qu'ils me connaissaient et j'attendais un peu mieux, quoi. Et voilà, ça s'est fait. J'ai pas trop réfléchi par rapport aux autres propositions. Je pense que Washington, le challenge était là. Le challenge était là, dans une belle ville, dans un beau club. Et voilà, donc j'ai pas trop réfléchi. Je suis parti. Et voilà.
Vous avez le droit de dire quelles autres offres vous aviez ou pas?
Il y avait d'autres équipes. Il y avait d'autres équipes. Après, je ne vais pas rentrer.
Sans les chiffres, mais est-ce que vous avez le droit de donner les villes?
Alors, il y avait, je me rappelle bien, Houston, il y avait, je crois, Atlanta, il y avait Dallas, il y avait une autre équipe, il y avait San Antonio.
Donc c'est du beau monde aussi,
ouais. Ouais, donc ouais. Après, c'est, j'ai signé assez tôt dans la free agency, donc toutes ces équipes, Minnesota aussi, toutes ces équipes, elles ont montré un intérêt, mais c'est vrai que il y avait des priorités en fait. Et moi, j'ai vite fait resserrer les taux en fait en donnant la priorité aux équipes qui m'avaient donné leur priorité. Donc voilà.
C'est tout le stress un peu du poker menteur de la free agency, quoi. C'est, on vous appelle, on est intéressé, mais il faut attendre un peu et vous devez prendre ce qui. C'est sur le moment, quoi.
C'est ça le problème. Tu vois, à un moment donné, on te fait une proposition, mais on te dit, en fonction de lui, si on arrive à récupérer ça, nous, on veut te signer pour tant, pour si. Mais en même temps, tu as une autre équipe qui t'appelle, qui te dit, nous, on a ça sur la table pour toi tout de suite. On te veut, tu es une priorité pour nous, boum. Et après, tu as une autre équipe, peut-être, où, dans ta tête, tu dis, oh non, c'est là où je veux aller. Mais ils te disent, on a besoin de 3 jours. Ah ouais. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il faut que je dise non à eux, alors qu'eux aussi ils sont bien, tu vois. Et le stress de la free agency, c'est un calvaire. Moi, j'étais pas bien. C'est une période qui est très stressante parce que c'est pas seulement toi, c'est aussi toute ta famille, c'est ta carrière. Moi, franchement, on va dire 24 heures avant de signer, j'étais... je dormais pas. J'étais pas bien.
La signature, ça doit être un soulagement, quoi.
Un moment où, tu vois, j'étais au téléphone avec mon agent et Ernie Grunfeld, le GM, et Scott Brooks. Un moment où ils m'ont appelé et qu'on s'est mis d'accord, c'est comme si la pression du monde entier était relâchée, quoi. Je me rappelle à ce moment-là. Je l'annonce à ma femme et ma femme, elle avait ressenti tout mon stress aussi. Elle s'est automatiquement mise à pleurer, quoi. Tu vois, c'est bon, c'est fait, c'est derrière. Mais la free agency, c'est pas évident. C'est pas si simple que ça. Et pour certaines personnes, par exemple, pour une personne comme LeBron, j'imagine pas.
Bon, après, lui, au niveau des priorités, en général, il est plutôt à l'aise. On l'attend.
On l'attend, mais ça reste quand même une grosse décision. C'est beaucoup de pression. Ouais. Et quand tu donnes ta décision, tu sais que ça va affecter beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un process, mais c'est bien dans la vie d'un athlète, d'un sportif de haut niveau, de vivre des moments comme ça, c'est important. Tu vois, c'est des décisions qu'il faut assumer et c'est des nouveaux challenges et c'est toute une réorganisation qui se passe derrière et ça chamboule ta vie. Donc c'est bien aussi. Moi, je suis content. En fait, je suis content de pas en fait avoir re-signer à Indiana, de me mettre moi-même et ma famille dans une situation où tu es peut-être inconfortable, tu vois, de jamais être trop, parce qu'Indiana ça aurait été peut-être la solution de confort, sachant que j'y ai passé 4 ans, que je me sentais super bien, que je connaissais tout le monde, j'adore Indiana, tu vois, et ça aurait été franchement peut-être la solution de facilité. Et de me sortir un peu de ça et d'être un peu dans le show, quoi. Et de te remettre, de repartir presque à zéro. C'est des moments à vivre en famille qui construisent aussi ta personne en tant qu'être humain, quoi.
En parallèle de toute cette carrière NBA, je suis obligé de vous poser une question un petit peu sur ce qui est en parallèle de tout ça, c'est l'équipe de France. Alors, parce qu'il y a eu beaucoup de cafouillages dans ces derniers mois, ces dernières semaines. Bon, déjà, question 1, est-ce que c'est bon, Vincent Collet, à votre numéro? Plus de problèmes de communication, tout va bien.
Non, mais Vincent, il a toujours eu le même numéro. Enfin, moi, j'ai pas changé de portable depuis 15 ans, quoi. J'ai le même numéro, il a jamais perdu mon numéro.
Et alors, est-ce que vous êtes officiellement disponible si on vous appelle en équipe de France?
Bien sûr, j'ai jamais pris ma retraite internationale.
On rappelle quand même, pour vous, ça a été un petit peu agité en bleu. Premier contact en 2009 au tournoi de repêchage de l'Eurobasket. Mm-hmm. Une blessure qui vous empêche de jouer le tournoi. Coupe du Monde 2014, forfait pour blessure au dernier moment. JO 2016, problème d'assurance. Au-delà des histoires de communication, ça a dû être super frustrant quand même aussi, souvent, d'être empêché par des petits trucs comme ça, quoi.
Ouais, il y a eu des blessures, il y a eu des rendez-vous ratés. Et c'est vrai que c'est... Tu vois, quand c'est pas que de la faute. Je suis pas là à pointer du doigt un peu tout le monde. C'est pas que de la faute de la Fédé, c'est pas que de ma faute. Il y a eu beaucoup de rendez-vous ratés, il y a eu beaucoup de, d'autres facteurs qui sont rentrés en compte à un moment donné et qui ont donné des raisons pour lesquelles j'ai pas pu porter le maillot bleu. Mais c'est comme ça. Mais je pense que la finalité de tout ça, c'est que. On aurait pu quand même, j'aurais pu avoir une bien meilleure relation avec l'équipe de France. Pour un gars comme moi qui est en équipe de France depuis l'âge de 15 ans, moi j'ai tout fait, hein, junior, espoir, A prime, j'ai fait toutes les équipes de France tous les étés, quoi. Donc pour moi, c'est porter le maillot bleu. Le maillot bleu, c'est quelque chose que je connais, que j'ai fait depuis ma douce enfance. Et je pense que la finalité, c'est que bon, quand je vais prendre ma retraite, j'ai pas forcément eu l'aventure espérée avec le maillot bleu.
On va faire un autre petit interlude, Yann, c'est l'instant quatrième dimension. Alors là, c'est un principe assez simple. On arrive dans une dimension où le basket n'existe pas. Il n'y a pas de basket.
Ok, d'accord.
Du tout.
Okay.
Qu'est-ce que vous faites de votre vie?
Moi, je disais, j'ai cette âme d'entrepreneur à la base. Tu vois, je suis un entrepreneur slash businessman. Tu vois, je suis quelqu'un qui adore créer. J'adore m'aventurer un peu sur des pistes, tu vois, qui me passionnent. Et voilà, je pense que j'ai cette âme d'entrepreneur. S'il n'y avait pas de basket, je me serais sûrement lancé dans un business. Tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai 31 ans, j'ai une marque de vêtements, des restaurants qui tournent, je suis actionnaire majoritaire de mon club Rouen, je fais des camps un peu partout dans le monde. Tu vois, je suis quelqu'un qui aime bien commencer des projets et pousser des projets au plus haut. Donc, je pense que sans basket, je ferai dans l'entrepreneuriat, quoi.
On peut parler un peu de tout ça. Vous êtes le cofondateur de French Deal avec Steven Kojia et Ousmane Dabo.
Ouais.
Comment vous êtes retrouvé? Alors, je vais déjà le dire pour nos auditeurs quand même qui n'ont pas l'image. Donc, vous êtes en effet un passionné de mode. Ouais. Vous êtes devant moi avec une chemise. Je connais pas le nom du motif. C'est Versace.
Non, c'est French Deal.
Ah, c'est French Deal, pardon, ouais. Autant pour moi. Donc, il y a un motif avec des cordes, etc. Vous avez un jean délavé avec des grands trous sur les genoux et des chaussures. C'est des mocassins, si je dis pas de bêtises. Voilà, je suis vraiment pas très calé là-dedans. je précise pour nos auditeurs, j'ai dit à Yann Maimi en arrivant que j'avais fait l'effort de mettre une chemise parce que je savais qu'il aime bien que les gens soient bien habillés. Donc, voilà. Donc, vous êtes passionné de mode. Comment vous vous êtes retrouvé, du coup? Alors, naturellement, je suppose. Mais comment ça s'est fait? Comment vous avez eu l'opportunité de le faire?
Alors, avec moi, la rencontre avec Steven, elle date de maintenant 10 ans. Steven Kojia, qui est mon designer, créateur dans ma marque de vêtements. On a été introduit par un ami qui est maintenant connu dans le milieu du basket, Gaëtan Muller. On a été mis en relation, et moi, j'ai toujours été dans la mode. J'ai toujours été quelqu'un d'assez fashion, qui aime avoir la dernière paire de sneakers, le dernier survêt, le dernier, tu vois, j'ai toujours aimé la sape, tu vois. Et on a été mis ensemble, en relation avec Steven, et on partage la même passion. Et on partage la même passion de la mode, mais à travers le hip-hop. Tu vois, à travers le hip-hop, à travers la soul music, à travers le R&B, tout ça. Donc on était sur le même filon, donc le courant est passé. Et lui, Steven, à l'époque, il était aussi un peu dans le vêtement, il faisait des petits t-shirts comme ci, par-ci, par-là. Et voilà, on a discuté. Et Steven, lui était très ami avec Ousmane Dabo, qui est un ancien international français, qui a une grande carrière à la Lazio de Rome, un peu partout. Et donc, voilà, on s'est retrouvés un peu tous les trois. Et en parlant, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas une marque de vêtements à nous ? Tu vois, une marque de vêtements à notre image. On partage tous, on vient tous du même milieu, on partage tous la même passion pour la mode. On est tous sur le filon hip-hop, tu vois, on était... donc là, c'était un peu fusionnel, quoi. Et c'est comme ça que l'idée est partie. Et puis, on s'est lancé, quoi. On s'est lancé. Bon, moi, j'étais un peu plus au niveau de la finance au début, tu vois, pour lancer les choses. Et au niveau de la création, en disant, moi, je vais faire ci, machin, Steven, vas-y, qu'est-ce que t'en penses, Ousmane, machin. Et donc, tu vois, de fil en aiguille, tu vois, on a créé notre marque comme ça. Et Steven, c'est un ancien danseur, street dancer, tu vois. Donc, il a aussi cette notion de sport. Ousmane, bon, il est connu, et moi, donc, on travaille franchement comme une équipe, tu vois. Et on a cette mentalité qu'ont les sportifs de haut niveau. On est de très forts compétiteurs, en fait. Donc on vise l'excellence dans tout ce qu'on fait, et voilà, c'est ce qui a donné naissance à notre produit, et j'en suis très très fier.
C'est une marque qui est placée quand même sur un positionnement haut de gamme. J'ai vu qu'il y avait des pièces made in France, hein, même sur le site.
C'est
sur le site,
que là. Des pièces made in D'accord. France. Tu vois, on a ce tampon made in France qui nous tient à cœur. On fait tout ici, et ça, tu vois, encore une fois, c'est dans le but aussi d'une qualité supérieure et d'une vision où on veut se placer aussi sur un marché vraiment qui est... C'est de la couture, c'est de la haute couture ce qu'on fait. C'est un marché qui est assez haut de gamme.
Et alors, dans un tout autre registre, vous étiez dans le Calvados la semaine dernière pour ça, vous avez aussi des restaurants.
Ouais.
Alors, c'est que des restaurants de la chaîne... c'est
Steak and Shake.
Steak and Shake, voilà. Ouais, j'allais confondre avec une autre.
Ouais.
Steak and Shake, qui a un import, en fait, c'est aux États-Unis.
Oui.
Et donc...
Pour la petite histoire, moi, j'ai découvert Steak and Shake à Indiana. Au moment où je jouais pour les Pacers, Steak and Shake, c'est un des plus gros sponsors des Pacers. Ils sont sur tous les paniers de basket. Derrière, en fait, tu as un grand milkshake, une grande affiche Steak and Shake. Et donc, moi et ma famille, à l'époque, ma femme et j'avais ma plus grande fille, Camille, on adorait aller à Steak and Shake. C'était un peu notre petit rendez-vous du week-end. Et donc, moi, je suis tombé amoureux du produit il y a déjà 6 ans de ça, à Indiana. Quand j'ai eu l'opportunité, et surtout quand j'ai entendu que Steak and Shake voulait s'exporter et s'importer justement sur le sol français, ça a fait un peu tilt. J'ai eu l'occasion de rencontrer mes deux partenaires aussi qui sont dans la restauration depuis plus de 20 ans même, David Anin et Laurent Gizzi. Et on a eu l'occasion d'échanger et puis de se lancer dans cette aventure. Donc il y en a un, comme tu dis... En terre normande, à Mondeville, qu'on a repris ensemble là, la semaine dernière. Et c'est vrai, et aujourd'hui, c'est officiellement l'ouverture au public de mon nouveau Steak and Shake à Brétigny-sur-Orge.
Donc ça fait deux. Il y en a un à Rouen aussi qui est prévu, non ?
Il y en a deux autour de Rouen qui sont prévus. Tout n'est pas signé encore. Donc on est en pourparlers. Dans, on va dire, les prochains 18 mois.
Ouais, donc on sent que vous êtes vraiment diversifié et on sent cette âme d'entrepreneur à travers ces projets-là. Et donc, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a Rouen.
Ouais.
Donc désormais, parce qu'au début, votre rôle était peut-être moins évident. Maintenant, vous êtes actionnaire majoritaire du club.
Oui, je vais dire pendant... Ça fait 4 ans que je suis retourné un peu et que je bosse avec mon club pour essayer de développer un peu le basket dans ma ville. Mais on va dire, les 3 premières années, j'étais parrain. J'étais un peu, même, on va dire, les premières, deuxième année, première année, deuxième année, j'étais plus, de l'extérieur. J'étais en relation avec le président Gueder, j'étais en relation avec Michel Véronnet, on essayait de travailler ensemble. Et après, je suis passé parrain, officiellement. Et après, là, cette année, je suis passé actionnaire. Donc voilà, c'est des choses. Moi aussi, je suis quelqu'un qui travaille dans le temps, tu sais, j'aime bien apprendre à connaître les gens. J'aime bien le dialogue, j'aime bien arriver dans une pièce où, tu vois, il y a beaucoup de têtes familières. Donc on a appris à se connaître, tout d'abord, et voilà, donc maintenant je suis actionnaire, et tout se passe, on essaie de faire grandir le club et tout se passe bien et c'est beaucoup d'échanges. Là, j'étais en contact avec mon coach Alexandre Ménard jusqu'à hier soir minuit et demi parce qu'on parle de joueurs et parce qu'on regarde des vidéos. Et donc c'est une autre aventure. Tu sais, ouais. De passer de joueur à de front office, de passer de l'autre côté, tu vois le basket un peu différemment et tu comprends le basket aussi différemment. Donc c'est une aventure pour moi qui franchement est superbe.
Il y a un vrai retour des joueurs français dans le basket français. Ouais. On voit Tony Parker à l'ASVEL, Nicolas Batum dans le Calvados.
Nico, il est à l'ASVEL aussi.
À l'ASVEL, pardon. Ouais. Mais à un moment, il était parrain. Donc,
oui, il était à Caen.
Du côté de Caen. Ouais. Boris Diaw, à un moment, à Bordeaux. Mm-hmm. C'est hyper naturel ou vous en parlez? Des fois, il y a une émulation, peut-être de dire tiens, moi aussi, je reviendrai bien. Comment ça se... Parce qu'on voit pas tout le temps ça dans les autres sports, finalement.
Ouais, je pense que c'est naturel. Je pense qu'on a cette envie de redonner un peu, même si, parce que nous, on vit quand même très loin de la France. La majorité du temps, on est aux États-Unis. Et je pense que pour moi, personnellement, c'est un moyen aussi de redonner un peu la base. Là où moi, j'ai commencé, c'est ici, de pouvoir redonner un peu tout ce que le basket m'a apporté en essayant de développer le basket dans ma région, dans ma métropole, dans ma ville. Et je pense qu'on est un peu tous attachés à ça. Mais je pense qu'on a été guidés par ce que Tony Parker a fait. Je pense que c'est lui le pionnier. Et je pense que c'est lui qui a été pour nous tous un peu une source d'inspiration aussi en se disant, mais attends, reprendre un club et développer le basket, moi aussi, ça m'intéresse. Donc moi, je peux pas dire que c'est quelque chose qui est juste venu comme ça. Tu vois. J'ai été aussi guidé. Et moi, je le fais dans ma ville de façon très naturelle. Et c'est quelque chose, encore une fois, c'est pas quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose que j'ai envie de construire sur le long terme.
Il y a donc la marque, les restos, Rouen, l'après-carrière, vous le voyez comme ça, un peu de tout, ouais. Toucher à tout pour rester éveillé, motivé. Diminué.
Bien sûr. Comme je te l'ai dit, moi, je suis un entrepreneur d'âme. Je suis businessman, j'ai même d'autres projets qui aussi sont sur le feu. J'aime diversifier, j'aime apprendre, j'aime m'entourer de personnes très intelligentes et vraiment grandir, tu sais, au contact de personnes très intelligentes qui sont très qualifiées dans ce qu'ils font. Moi, basketteur ne me définit pas en tant qu'individu, donc je suis quelqu'un qui aime puiser un peu dans toutes les ressources autour de moi et je suis quelqu'un, je pense, dans le futur qui va, je pense, m'épanouir tout autant dans mon après carrière, on va dire, basketteur, dans ma vie d'entrepreneur et de businessman.
Et c'est une question quasiment obligatoire, mais avant cette après carrière, est-ce qu'il y a une petite chance de vous voir jouer avec Rouen, justement?
Ah, je pense pas trop. Je pense qu'à un moment donné, ce sera le temps pour moi de raccrocher. Et je pense que je le ferai aux États-Unis. Et moi, tu sais, j'ai pour but à un moment donné de jouer le plus longtemps possible en NBA. Et après, une fois que c'est fini, parce que nos vies quand même d'athlètes de haut niveau et de joueurs NBA sont assez difficiles, surtout pour nos familles. On rate beaucoup de choses du fait de notre calendrier. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'ai un peu aussi envie de mettre ma famille en avant et de leur donner un peu mon temps et de m'assurer. En fait, moi, j'aimerais pouvoir faire mon calendrier à ma façon. Tu vois, fixer mes dates, me dire, bah voilà, OK, mes filles, elles ont un cours de danse tel jour, il faut que j'y sois. Donc, bloquer des dates. Donc, c'est un peu ça, mon objectif. À moyen long terme.
Alors, ce qui vous permet aussi d'envisager l'après-carrière, c'est le contrat que vous avez signé notamment avec les Wizards, qui est un contrat important. Vous avez gagné 53 millions de dollars depuis votre arrivée en NBA. Mm-hmm. Alors, on n'en a pas parlé avant et c'était une volonté parce que ma question est assez simple, c'est de savoir, est-ce que vous en avez marre qu'on vous parle d'argent, notamment depuis 2 ans où les contrats ont quand même relativement explosé, tout le monde a parlé avec beaucoup de ça, Nicolas Batum, à Rudy Gobert, etc. Mm-hmm. Vous, est-ce que vous en avez marre qu'on vous ramène aussi à ça?
Non, et moi personnellement, ça fait partie, c'est une réalité. Hein, parler de l'argent, des chiffres, c'est une réalité. Hein. C'est le quotidien de monsieur tout le monde. Tout le monde travaille pour gagner de l'argent. Donc pour moi, ça ne me dérange pas. Je suis quelqu'un qui, qui ai toujours travaillé, j'ai toujours travaillé très dur pour gagner le moindre centime. Et dans la vie, tu n'as que ce que tu mérites. Donc moi, je suis toujours ouvert à toute conversation, tout débat, ça me dérange pas, mais je sais que tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné à la sueur de mon front et à mon travail. Et à tout, aussi toutes les prières et toute l'aide que j'ai pu avoir de ma famille et de mon entourage. Donc, pour moi, toutes ces conversations autour de l'argent ne me dérangent pas forcément.
On va terminer avec un mot. On parlait de vos projets. Il y a aussi les camps de basket.
Ouais.
Vous en revenez. Vous étiez au Bénin.
Exactement.
Alors, vous êtes né à Rouen, ouais. Mais en juin 2017, donc vous étiez au Bénin pour parler du développement du basket sur place. Là, vous étiez là-bas pour un camp de basket. Comment ça s'est noué, ce lien, pour vous, avec le Bénin, du coup ?
Bah, moi, ça fait longtemps, en fait. Je suis béninois. Hein, mon père est béninois. Et ça fait longtemps que je veux retourner au pays. Et c'est vrai que là... vu que je suis beaucoup moins en équipe de France et vu que j'ai des étés que je peux planifier d'une certaine façon, j'ai eu cette opportunité justement de faire mon premier camp de basket au Bénin.
L'année dernière, j'ai eu cette envie, hein, j'ai eu cette vision. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai été aussi vachement épaulé par la fédération béninoise sur place pour organiser un camp de qualité. Et on s'y est lancé,
et moi j'ai aussi commencé une fondation, et je pensais que c'était aussi le bon moment pour moi aussi de revenir et de, comme je le fais à Rouen, de ramener un peu ce que le basket a pu m'apporter aux États-Unis à Rouen, bah je le fais aussi au Bénin, et j'essaie de développer un peu le basket sur le pays. On a des beaux talents et on a un beau pays, et je veux le montrer.
Ben merci beaucoup, Yann Maïmi.
De rien.
C'était un plaisir. Merci de nous avoir reçus dans ce nouvel épisode de 48. On vous souhaite un bon été, puisqu'il reste encore une bonne intersaison.
Ouais.
Et puis une bonne troisième saison avec les Wizards, du coup. Objectif, play-off.
Bien sûr.
Même si on ne sait pas encore. Au moment où on enregistre, on prévient quand même qu'on enregistre avant la Free Agency.
Ouais.
Vous ne savez pas encore si LeBron James. L'émission sera peut-être diffusée début juillet, donc on ne sait pas s'il aura choisi.
D'accord.
Mais en tout cas, oui, on vous souhaite une bonne saison et les play-offs et le plus loin possible, évidemment, avec Washington. Merci encore à vous.
Merci beaucoup.
On vous remercie si vous écoutez cette émission et si vous nous soutenez sur Tipeee. On vous dit évidemment à très bientôt pour un nouvel épisode. Yann, je vous laisse choisir la musique de fin.
Alors la musique de fin, en ce moment j'écoute beaucoup de Kanye West. Et là, je sais plus c'est quoi le son, le nom du son.
Je vous laisse chercher sur votre téléphone.
Voilà,
vous allez me dire ça.
Voilà, Ghost Town.
Et bah Ghost Town.
Tu me finis mon émission sur Ghost Town.
Et bah
on est bien.
On termine ça là-dessus. Merci beaucoup, Yann Maïmi. Très bonne saison à vous.
Merci.
À très bientôt pour un prochain épisode de 48. Ciao, ciao. Someday, 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 I wanna lay down like God did on Sunday. Sunday. Sundays, I remember these on Sundays. That way, yeah, way better. Sunday, that one's everybody. Sunday, I wanna hit the red dot and everybody. Sunday, I've been trying to make you love me.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.